Louis Tannberger, bonjour.
Bonjour, monsieur Testot.
Vous êtes le président de IPO numéro 1. Alors oui, on parle avec vous d'introduction en bourse. Vous avez réalisé quand même 400. Sacré palmarès.
Réussi, peut-être pas, mais je m'en suis occupé, c'est vrai. Je les ai détectés, puis après, accompagnés, conduites en bourse avec vous, avec d'autres. Et ça n'a pas trop mal fonctionné, puisque les 400 qui étaient des TPE au départ sont devenus beaucoup, des dizaines et des dizaines des PME. Et aujourd'hui, des ETI. Je citerai des exemples tout à l'heure que j'ai en tête.
Alors justement, parlons de cette attractivité de la bourse. Au-delà de la crise sanitaire, bien sûr que nous traversons, ça fait quand même plusieurs années qu'on se pose la question de l'attractivité de la bourse pour ces entreprises. Vous en pensez quoi?
Écoutez, la première attractivité de la bourse, c'est la liquidité. Ce qu'il faut souligner, c'est peut-être comme le seul instrument qui vous donne de la liquidité. Tous les jours, malgré la crise que vous venez d'évoquer, la Bourse de Paris a fonctionné 24 heures sur 24, si j'ose dire, et ça, c'est quand même très important. On comparera ça un tout petit peu tout à l'heure avec le private equity dont vous allez me parler forcément, mais la liquidité est la grande affaire, j'allais dire, des 10 prochaines années, parce que des crises, il y en aura toujours, et quand vous avez un bien que vous ne pouvez pas vendre, ce n'est pas réellement un bien.
Ce qui veut dire que le chef d'entreprise, dans les périodes fastes, bien sûr, voilà, il peut réaliser peut-être un certain nombre de choses, mais aussi dans les périodes où ça ne va pas, il a cette liquidité qui lui permettrait, par exemple, ce qui est arrivé pour certaines entreprises, de sortir de la bourse.
Oui, mais ça, je pense que tous ceux qui l'ont fait le regrettent parce que dans la presse, il n'existe plus. Et puis, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos de la liquidité, pendant les périodes fastes, la bourse permet d'accumuler des fonds et je dirais un trésor de guerre. Et dans une période comme celle que nous traversons, rien n'est plus précieux qu'un trésor de guerre. Et les entreprises cotées traversent cette période, là, pour la plupart, allègrement.
Vous diriez que les PME ou les entreprises de taille intermédiaire, les ETI qu'on connaît bien ici, ont un avenir en bourse?
Bien entendu, parce que de toutes les façons, le monde a changé et les modes de financement aussi. Il y en a d'ailleurs deux, pour être bref, d'un côté le crédit et de l'autre côté le financement par le marché. C'est une autre culture qu'il faut enseigner, je le fais depuis le début. C'est la raison pour laquelle j'en ai peut-être fait 400, puisque j'ai un peu évangélisé les chefs d'entreprise et je leur ai dit que maintenant il y a une nouvelle culture qui est à acquérir, qu'on le veuille ou non, on ne reviendra plus en arrière. Je parle du financement par le marché. Et ça, c'est quand même très important. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la bourse est un tantôt peu bancarisée. On parle beaucoup plus du bilan, comme pour le crédit. Tout à fait, je suis banquier de crédit à la base, un homme qui n'a qu'une passion, la bourse. Mais de l'autre côté, la bourse permet de valoriser des perspectives et de lever des capitaux sur ces perspectives valorisées.
Alors, on disait, il n'y a pas eu beaucoup d'introductions en bourse au cours des dernières années. Si je me mets à la place de l'entrepreneur aujourd'hui, il va lever des fonds, il va commencer à lever des fonds, puis à un moment donné, il va se décider. Mais aller en bourse aujourd'hui, pourquoi aller en bourse?
Oui, écoutez, je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de recul ou de l'autre côté s'inscrire dans une perspective. Pourquoi aller en bourse quand je regarde un certain nombre d'entreprises, ce qu'elles sont devenues? J'ai eu au téléphone la semaine dernière François Guillen, qui est le fondateur de Guillen, numéro 1 en Europe des emballages aujourd'hui. Je lui ai demandé combien étions-nous, comme si je faisais partie de la société au moment de l'introduction en bourse, 130, et aujourd'hui ils sont 3000. Donc la bourse et l'introduction en bourse, ce n'est pas seulement un coup de fusil le premier jour, mais il faut durer dans le temps, comme dans la vie, le plus important est de durer, je crois qu'on est d'accord. Donc il faut voir tout ce que la bourse sous-tend. Il n'y a pas seulement la levée de fonds, il y a la notoriété, il y a aussi la transmission des entreprises à la génération qui suit. Je dis souvent, si un père veut que ses enfants deviennent meilleurs et pérennise en quelque sorte l'entreprise qu'il a fondée, il les met en bourse. Et donc, ou alors il change la gouvernance. Mais je crois que c'est aussi un tout petit peu la fin de l'entre-soi, surtout pour les entreprises familiales qui doivent peu ou prou ouvrir les fenêtres.
C'est vrai qu'on en connaît un certain nombre qui ont des très beaux parcours. Alors, vous évoquiez le private equity. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sociétés en private equity qui sont d'ailleurs venues en bourse, notamment dans la biotech, mais il y a un attrait, il y a eu le private equity a rattrapé un peu son retard par rapport au marché et a pris une place finalement.
Oui, je crois que nous n'avons pas été assez ardents. Nous devrions pratiquer un militantisme beaucoup plus fort. Même Euronext, je verrais bien Euronext publier tous les jours une page de publicité disant les attraits ou les avantages de la bourse. Nous ne sommes pas très forts en marketing. Le private equity, on ne l'a pas vu arriver vraiment. Mais enfin, la bourse a toujours son rôle. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les journaux sont pleins d'introductions en bourse là-bas. Il y a quelques mois seulement, on disait que les introductions en bourse ne fonctionnaient plus, alors qu'elles cartonnent. Donc, la bourse est universelle et éternelle depuis 1540. Vous savez que la première bourse en France a été créée à Lyon.
Voilà. Alors, effectivement, vous parlez de ces nouveaux actionnaires. Il y en a aux États-Unis qui utilisent des nouveaux brokers aussi également à zéro coût. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ces nouveaux actionnaires, est-ce qu'il y en a suffisamment? Il y en a eu aussi en France. Je crois que c'est autour de 700 000, a dit l'AMF, nouveaux actionnaires. Mais quand on voit, par exemple, la bataille Veolia-Suez, dont j'ai eu l'occasion de parler sur Sud Radio il n'y a pas longtemps, on se dit finalement, si Suez avait ses actionnaires individuels, beaucoup plus d'actionnaires individuels, ils auraient accompagné Suez dans son souhait d'autonomie, par exemple. Aujourd'hui, finalement, on a un capitalisme, mais on n'a pas de capitaux.
Oui, les chefs d'entreprise ne croient pas beaucoup, la plupart, et dans les grands groupes peut-être, sauf l'Air Liquide, qui de toutes les façons a toujours joué cette carte, elle est précieuse. Les chefs d'entreprise et patrons du CAC 40 se sont peut-être laissés séduire par cette phrase, la bourse maintenant est une affaire de gros et pas de détails. Or, on a vu au cours des dernières introductions de bourse à quel point les particuliers étaient présents. Donc, il ne faut pas dire qu'ils désertent la bourse. Tant qu'il y a de la croissance, il y a des investisseurs petits et grands. Et au cours des dernières introductions de bourse, j'ai constaté qu'il y avait plus de petits que de grands. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut, animer. Nous ne sommes pas assez dynamiques. Et notamment au niveau des introductions de bourse, je ne prêche pas pour ma chapelle, je parle pour la place de Paris. Le dynamisme d'une place se juge au nombre d'introductions en bourse et de nouvelles recrues par an. Regardez New York, regardez Singapour, regardez Shanghai, regardez ce qui se passe à travers le monde. Je dis souvent, Paris doit être très attentif à ce sujet. Ce problème concerne même la maire de Paris, une capitale qui n'abrite pas. Plus une grande place financière n'est plus vraiment en capitale. Regardez New York, regardez Londres et toutes les grandes villes, Moscou compris, que nous venons de citer.
Ouais, j'ai vu en Chine certaines introductions en bourse qui créent instantanément, après l'introduction en bourse, des milliardaires, mais parfois 50 milliardaires d'un coup.
Ben, bien sûr.
La bourse, vu la valorisation.
Bien sûr, la bourse a toujours été l'endroit où on pouvait s'enrichir le plus. Il faut regarder la capitalisation boursière de Apple, qui totalise plus que tout le CAC 40 à Paris. Oui, je crois que, comme dit tout à l'heure, il manque une locomotive. Je ne prêche encore une fois pas pour Lyon, pour Paris, mais il est vrai que le second marché a été entraîné par une banque, la Lyonnaise de banque que j'ai servie au demeurant, et 400 nouvelles entreprises, non, qu'est-ce que dis-je, 635 nouvelles entreprises sont arrivées sur le second marché, qui a renouvelé tout le tissu boursier, ce qui est aujourd'hui une nécessité absolue, parce qu'une place qui ne renouvelle pas sans cesse son tissu boursier est une place financière morte. C'est comme s'il n'y avait plus d'école préparatoire. Ici, on ne parle plus que des grands diplômes et des baccalauréats, c'est tout en bas qu'il faut les chercher, les entreprises, je les ai toujours cherchées et même trouvées à travers toute la France. Il ne faut pas que nous attendions à Paris qu'elles viennent à nous. Si Lagardère ne vient pas à toi, tu iras à Lagardère.
Alors justement, pour les jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, on a autour de nous la flambée de l'immobilier, discontinue avec ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a l'immobilier qui a flambé depuis des années, et puis finalement, le jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché de l'emploi, il se dit, bon, première chose que je dois faire, je vais essayer de trouver un logement. Il n'a pas ce réflexe de dire, peut-être que je vais penser à ma retraite, c'est loin sa retraite. Donc en se disant, je vais peut-être commencer à investir en bourse. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui, ou un critérien, dire, je m'intéresse à la bourse, mais je ne sais pas comment faire?
Oh ben, de toutes les façons, vous êtes là pour les inciter à investir. Les journaux ne le font peut-être pas assez, c'est tout l'écosystème qui doit revoir sa copie. J'ai parlé de militantisme tout à l'heure, et d'un autre côté, si vous parlez ce que vous faites de toutes ces petites entreprises qui montent, ben ça sera peut-être des grands groupes de demain. Voilà ce qu'il faut dire aux jeunes. Il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup frappé. La région Bretagne cherche rien à voir avec la bourse et tout à voir avec elle, le relais à toutes ces ETI que vous connaissez, remplacer, relayer, pérenniser ces ETI et qui avancent en âge. Les groupes comme ceux de Bolloré, les Rouillés, les Leduf, etc. Enfin, il y a, la région Bretagne est de nouveau en pointe sur ce plan-là. Nous avons exactement la même chose à faire pour la Bourse à Paris, reboiser tout le terroir.
Le mot de la fin, cette passion de la bourse, elle est ancienne chez vous, mais comment elle est arrivée? Parce que vous nous avez dit, bah voilà, le banquier, vous étiez un banquier, crédit. Qu'est-ce qui vous a passionné dans ces aventures?
Mais c'est à relier avec la phrase précédente. Les Échos, les SEB, les Plastic Omnium étaient pas des grosses entreprises. Aujourd'hui, elles le sont devenues et j'ai cru beaucoup aux hommes qui allaient faire de grandes choses avec, j'allais dire, leur petite boîte, et je ne suis pas beaucoup trompé, je me rappelle justement de ces trois que je viens de citer. La banque n'y croyait pas du tout, et j'y ai cru et je les ai entraînés. C'est de l'enthousiasme qu'il faut, et on fait rien de grand sans enthousiasme et sans passion, et le résultat est là. Il y a des, parmi les 650, il y a bien 50 best-sellers qui font aujourd'hui les beaux jours de la Bourse de Paris. C'est pour ça qu'il faut y croire, penser que il faut sans arrêt militer. Si vous ne croyez pas plus fort au financement par la bourse que le chef d'entreprise peut y croire lui-même, alors donc on n'arrivera à rien. Et donc dans la banque et la bourse sont un tout petit peu concurrents l'un de l'autre. On a créé un produit de remplacement, le private equity. J'aimerais quand même poser une question au chef d'entreprise. Que vont devenir ou que va devenir la participation que le fonds détient dans votre capital? Est-ce que vous êtes sûr qu'il restera avec vous? Il va peut-être vendre cette participation à quelqu'un que vous n'appréciez pas vraiment. Et je dis souvent, et ça c'est le formidable, cet avantage de la bourse, il est quand même beaucoup plus agréable de dénombrer 1 000, 2 000 petits actionnaires qui achètent et qui vendent vos actions en bourse que d'avoir un financier dans votre capital qui vous empêche de tourner en rond. Parce que le financier, il n'y a rien à dire. Il est quand même un tout petit peu obsédé par le taux de retour sur investissement, le fameux TRI. Il est relativement pressé pour encaisser sa plus-value. Il faut appeler un chat, et le chef d'entreprise a besoin de temps. Voilà les différences entre le private equity et la bourse.
Merci Louis Tannenberger d'avoir parlé avec moi de cette passion commune, voilà, qui nous anime.
Merci à vous.